Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Et on va parler donc des maladies cardiaques. Il faut savoir que près de 500 000 personnes vivent en France avec un défibrillateur ou un stimulateur cardiaque. Ça devient commun finalement maintenant. C'est quelque chose qui améliore la qualité de vie, qui sauve des vies bien évidemment. Mais il faut savoir que moins d'un patient sur trois est éligible à la télésurveillance de dernière génération pour justement en bénéficier. Et on va parler de tout ça avec notre invité, Arnaud Rosier. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir François.
Vous êtes cardiologue, vous êtes président et cofondateur d'Implicity qui a été créé en 2016,
exactement.
Je crois bien. Vous êtes donc spécialisé dans ces maladies cardiaques, la télésurveillance cardiaque. Expliquez-nous ce que vous faites et comment ça marche.
Alors, moi je suis cardiologue. Oui. Mon problème en tant que cardiologue, c'était d'arriver à suivre ces patients. Donc, si vous avez 10 stimulateurs cardiaques, 500 000 patients, ça fait beaucoup. C'est des pacemakers, tout simplement.
Oui.
Plein de gens ont cette espèce d'appareil sous la peau qui est branché au cœur et qui régule leur rythme cardiaque.
Soit parce qu'il est trop faible, c'est ça ?
Exactement. Ou bien quand il va trop vite, les défibrillateurs qui ressuscitent les patients. Voilà. Donc, ces appareils-là, on les connaît, ça fait des dizaines d'années que ça existe. La nouveauté, il y a une vingtaine d'années...
C'est une petite révolution technologique, d'ailleurs, ce truc-là.
Et c'était parce que... déjà des appareils MedTech qui ont sauvé un nombre incalculable de...
La miniaturisation, enfin, exactement. Je veux dire, c'est
et contrairement à votre téléphone, ça dure quand même très longtemps. Une dizaine d'années, comme ouais. ça, en autonomie totale. La nouveauté d'il y a une vingtaine d'années, c'était le télésuivi, c'est-à-dire que ces appareils envoient des données dans le cloud des fabricants de pacemakers avec un petit appareil, une espèce de boîtier de communication sur la table de nuit du patient. Ça fait déjà 20 ans.
Alors attendez, je me couche, j'ai un pacemaker.
Exactement.
À ce moment-là, quand je me couche, il va dialoguer en quelque sorte avec un petit boîtier qui est à côté pour dire, ben voilà, aujourd'hui c'est passé ça, ça, ça et ça. Et ça remonte en fait dans le cloud.
Ça va remonter dans le cloud des fabricants. Et alors,
ça existe depuis combien d'années ?
2002, pour les premières générations.
C'est incroyable.
On n'en a quasiment pas entendu parler dans le...
C'est l'un des premiers objets santé connectés, finalement.
Exactement. C'est probablement un des objets santé connectés les plus innovants, les plus utilisés dans le monde aujourd'hui. Et ça a créé une opportunité, c'est-à-dire plein de données sur les patients, 200 variables qui remontent quotidiennement. Alors, vous avez dit qu'un tiers est éligible. En fait, la réalité, c'est que tous les patients sont éligibles.
Okay.
Dès lors qu'ils ont un appareil, mais seulement 1 sur 3 est déjà surveillé, déjà suivi. À distance. Et le suivi à distance, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet à ces données qui remontent de redescendre vers votre médecin. Et c'est là que l'opportunité devient un problème pour nous, les professionnels de santé, parce qu'on ne peut pas mettre 15 infirmières, 15 médecins pour regarder des données derrière un ordinateur. Implicity, c'est une société que j'ai créée il y a 10 ans pour résoudre ça, développer la technologie à travers une plateforme et de l'IA, des algorithmes, pour trier ces données, pour aller trouver les données qui sont importantes.
Qui sont pertinentes.
Et trouver l'aiguille dans la botte de foin pour aller justement permettre de mettre en place le traitement, de convoquer le patient, mais de tous ceux qui vont bien, on leur dit tout va bien, restez chez vous, et on n'a plus besoin de les voir en consultation autant qu'auparavant. Donc en quelque sorte, les patients sont suivis tous les jours, alors qu'autrefois, on téléchargeait les données tous les 6 mois, et parfois on se rendait compte que
il y avait un problème.
On a loupé quelque chose il y a 3 mois. Pas de bol.
Donc, pour récapituler... On a un pacemaker, on se couche, les données passent par le boîtier, remontent dans le cloud. Vous récupérez ces données.
Exactement.
Vous allez les trier. Quand tout va bien, vous n'allez pas alerter en fait tous les professionnels de santé parce que évidemment ils ont autre chose à faire, d'accord. Mais en revanche, dès que vous détectez des anomalies dans ces données-là, effectivement, elles arrivent aux soignants, en fait,
et
aux cardiologues.
On est une société de technologie qui aide les soignants à travailler. En essayant de leur faire gagner du temps, en essayant d'améliorer la prise en charge. Donc notre produit a été comparé aux solutions historiques des fabricants et on baisse la mortalité, on baisse les hospitalisations, on baisse les coûts. Donc incroyable.
C'est incroyable. Mais alors comment arrivez-vous à baisser la mortalité en fait ?
Alors, si vous voulez, quand on se rend compte qu'il y a des problèmes chez certains patients, qu'il y a par exemple un trouble du rythme, à risque d'accident vasculaire cérébral, on peut mettre en place un traitement anticoagulant par exemple.
D'accord.
Donc finalement, l'information au bon endroit, au bon moment, avec le bon professionnel, c'est juste de la médecine à la fin. C'est appliquer des traitements qui sont connus. Mais cette organisation du système, elle nécessite quoi ? Elle nécessite que vous ayez une plateforme où tout arrive, parce qu'il y a 5 grands fabricants mondiaux de pacemakers. Le médecin ne va pas avoir 5 plateformes, forcément. Mmh. Il veut que tout arrive au même endroit. Mais il va falloir aussi regarder un petit peu le contexte de chaque patient. Chaque patient est différent. Donc, quels sont les traitements ? Vous voyez ? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est une personne de 60 ans, quelqu'un d'âgé? Donc tout ce contexte, forcément, va modifier la prise en charge.
Alors donc vous disiez, vous avez 10 ans d'existence, vous avez quand même 110 000 patients aujourd'hui, vous travaillez avec environ 300 centres médicaux en Europe, mais aussi aux États-Unis. Si je comprends bien, vous êtes obligé de discuter en fait avec les fabricants de pacemakers et les clouds qui récupèrent toutes ces données en fait.
Alors on récupère les données. Maintenant, vous savez que depuis RGPD, il y a la portabilité des données.
Donc c'est-à-dire ces données, en fait, elles sont libres de droit.
Ce sont des données des patients.
Standardisées.
Alors qu'ils sont plus ou moins standardisés, il y a un énorme boulot pour les récupérer et puis les mettre dans la bonne forme, parce qu'il y en a beaucoup. Donc c'est un petit peu comme en radiologie, vous avez les scanners qui communiquent avec les imprimantes d'une autre marque, sauf que nous, c'est un milieu un peu moins mature. Mais finalement, vous avez raison de dire, on est dans cette logique, on échange avec les professionnels, on échange avec les fabricants, et on fait un petit peu la plateforme centrale qui va permettre aux données des patients d'arriver au médecin du patient. C'est le même problème en France, en Allemagne, dans les autres pays d'Europe et aux États-Unis. C'est partout la même chose.
D'accord.
Et donc, on est très fiers d'avoir énormément de centres. Plus d'un patient sur deux télésuivi avec son pacemaker en France. Désormais, son médecin utilise notre solution, généralement, que ce soit à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon, à l'Institut de Montsouris, à l'hôpital privé Jacques Cartier. Enfin, voilà, on a tout un tas de clients en France. Mais au-delà de ça, ce qu'on fait, qui est différenciant, je pense, c'est qu'on développe des algorithmes avec des données françaises. Qu'on exporte aux États-Unis, donc il faut obtenir tous les tampons, la FDA clearance, le marquage CE, etc. Et ces algorithmes, au-delà de faire gagner du temps, vont essayer d'aller prédire, donc non seulement organiser toutes ces données, les trier, comme vous disiez, mais aussi détecter à l'avance un événement susceptible de se produire.
Arnaud, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle tous les soirs d'IA dans cette émission. Vous avez cité le mot « algorithme ». Est-ce que justement l'intelligence artificielle est quelque chose que vous utilisez depuis longtemps, parce que justement pour trier toutes ces informations que vous avez, trier le bon grain de livret comme on dit, ça nécessite de l'IA.
Ça nécessite toute forme d'IA. Maintenant on parle beaucoup des modèles génératifs, l'IA fondationnelle, mais j'ai envie de vous dire, ça peut être un système très simple, il y a beaucoup bien sûr de systèmes à base d'apprentissage machine. Implicity a eu la chance d'être une des premières sociétés en France à accéder au Health Data Hub, qui est ce dépôt national, en tant que société privée. Et on a été capable donc de pousser les données chez eux, c'est pas chez nous, pour entraîner nos modèles et pour faire un algorithme qui prédit les hospitalisations chez les patients. Algorithme qu'on est en train de déployer dans certains grands hôpitaux américains universitaires, après avoir eu l'approbation de la FDA. Preuve que l'excellence française en médecine, extrêmement connue, en cardiologie en particulier, mais aussi dans tout ce qui est développement d'algorithmes, existe. Et là où, sur des modèles généralistes, on voit bien que Mistral va être peut-être un tout petit peu à la peine, mais on leur souhaite de continuer à se battre par rapport à OpenAI et Anthropic, en santé, on a quand même une vraie expertise française. Vous avez vu, Gleamer a été racheté il n'y a pas très longtemps. C'était un des leaders sur la radiologie. On a eu Cardiologues en France. On a énormément de sociétés comme la nôtre qui développent des algorithmes d'IA. Et je dirais que maintenant, il faut arriver à faire émettre des géants avant le rachat, pour rester des boîtes souveraines françaises.
Voilà, alors on salue votre succès et c'est formidable. J'avais une question qui était... On fait un petit peu un pas de côté sur Implicity, mais vous posez une question en tant que cardiologue. Est-ce que l'intelligence artificielle qui est en train de bouleverser énormément de secteurs, on le voit, même dans le domaine médical, radiographie, dermato, ophtalmologie, enfin voilà. Est-ce que la cardio aussi est impactée par l'IA et est-ce que ça change votre métier?
L'IA est partout. Toutes les modalités où vous avez de l'image, un signal déjà préenregistré, ce qui est le cas avec les pacemakers, est très accessible à l'IA parce que vous avez énormément de données. Donc, cardiologue, c'était de l'électrocardiogramme. Vous en avez un derrière vous sur l'écran. Ça, on voit bien que c'est de la donnée digitalisée, donc c'est très facile. Le vrai enjeu pour les sociétés comme nous, c'est l'accès au marché, comme toujours. C'est d'arriver à prouver que cette IA, elle est efficace. Je vous ai dit, nous, on a fait une énorme étude clinique en France sur 75 000 patients pour montrer que ça baisse la mortalité, les hospitalisations, que ça baisse les coûts. Mais malgré ça, je dirais, c'est toujours très compliqué d'aller au bout du remboursement et de l'accès au marché. Du remboursement par la sécurité sociale. On est une société medtech, comme vous aviez dit.
Oui. Donc, vous êtes remboursé par la sécurité.
Nous sommes remboursés par la sécurité sociale.
C'est rare pour une innovation technologique.
Alors, c'est rare et en même temps très classique dans le medtech.
Oui.
Normalement, quand vous avez prouvé que ça fonctionne. On est remboursé et en même temps, on attend des remboursements depuis 600 jours, qu'on verra peut-être arriver en fonction de la cohérence.
Bah écoutez, l'appel est lancé là. Ils sont pas tout à fait. Oui, ils mettent un peu de temps à rembourser, c'est ça?
Ça va venir.
Oui, ça va venir. Autre question. En tant que cardiologue, on voit l'arrivée massive de montres connectées, Apple Watch, les Garmin, etc., etc. Enfin, tous ces appareils qui mesurent la fréquence cardiaque, qui font des électrocardiogrammes, qui voilà, Tim Cook de temps en temps tweet en disant ben voilà, j'ai eu encore le témoignage d'un client qui portait une Apple Watch dont la vie a été sauvée parce que l'Apple Watch a détecté une défaillance cardiaque. Quel est votre point de vue là-dessus?
Écoutez, c'est utile. Alors, la plupart des gens qui ont une Apple Watch sont en bonne santé proportionnellement. Là, on en a un vrai besoin chez les patients les plus fragiles. Donc les plus
qui,
âgés.
Eux, ne portent pas paradoxalement.
Ce ne sont pas ceux qui les portent
une Apple
le plus,
Watch.
Mais les choses évoluent. Hein, nos aînés ont des smartphones.
C'est sûr.
Bon, alors le pacemaker, le gros avantage, il est à l'intérieur, il dure 10 ans. Pas besoin de le recharger sur la table de nuit tous les soirs. L'Apple Watch, c'est 24-48 heures si vous payez un petit peu le modèle premium.
Ouais.
Donc, gros avantage. Mais fondamentalement, c'est la même chose, et d'ailleurs, nous intégrons ce type de dispositif.
Est-ce que vous pensez que demain, on aura également tous des petits garde-fous comme ça, technologiques, des petits capteurs?
J'en suis convaincu. Et ça sera pas mal, parce qu'on oubliera qu'on les a, mais le plus important, ça n'est pas d'avoir le capteur, c'est d'avoir l'intelligence derrière. C'est d'avoir le médecin qui vous surveille, plus exactement qui vous suit, j'aime pas le mot de surveillance.
Oui, oui.
Il vous suit.
Bienveillant, il est bienveillant.
Et il intervient.
Quand il le faut.
Quand il le faut. Et c'est ça le plus important. Donc nous, on essaye de développer cette intelligence dans les algorithmes avec des données.
Est-ce que les passerelles se font bien? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, un client qui a une Apple Watch, comment faites-vous pour avoir ces données? Il est obligé lui-même, de son propre chef, de vous les envoyer. Mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi fluidifier cette relation entre la machine et votre profession, tout en évidemment, on va pas vous alerter à chaque fois que j'ai une accélération cardiaque, mais que là encore,
et peut-être
grâce à Implicity,
notre métier d'être alerté.
Oui, et peut-être que grâce à Implicity, vous pourriez aussi récupérer des données de d'objets plus traditionnels.
C'est ce qu'on fait. Hein, on récupère des données de balances connectées, de smartwatch.
Okay.
Donc vous avez tout à fait raison. Je pense que ce qu'il faut, c'est deux choses. Que ça soit plus fluide, mais en réalité, maintenant qu'il y a la portabilité, il n'y a pas forcément besoin que le patient les envoie.
D'accord.
On peut brancher tout ça. Et deuxièmement, il y a besoin que les équipes médicales aient les ressources pour être la tour de contrôle, prévenir la bonne personne et vous faire signe quand il y a besoin.
Merci beaucoup, passionnant tout ça. Merci Arnaud Rosier.
Merci François.
Cardiologue et président et cofondateur d'Implicity.